Oui, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas.
C'est la première fois que je vois un aussi habile sur la lettre.
Oui, j'ai une question sur le webmestre.
Oui.
Est-ce qu'on fait la différence entre le webmestre et le cadre de l'association, le responsable de l'association?
Oui, ça peut être, si c'est pas la même personne, ça peut être. Le webmestre peut être un salarié, ou un bénévole, hein, effectivement. Et celui qui se prendra tout dans les gueules, a priori, c'est le responsable de l'association, c'est le président de l'association.
Hein. Est-ce qu'il peut y avoir un conflit entre les deux?
Il n'y a pas de conflit. Le responsable, civil et pénal, c'est le président de l'association, quel qu'il soit. Souvent, c'est la même personne. Oui.
Par exemple, dans le cas où une association, il va donner un domaine en son nom propre pour une association. Mmh. Donc, si le web de l'association est hébergé, le webmaster n'est pas lié, qui est responsable? La personne physique, l'association, le président de l'association?
Le nom de domaine n'a rien à voir, c'est un accessoire. C'est le site, c'est une illicéité. Sauf si le nom de domaine est lui-même illicite, ce qui peut arriver, ce sera le président de l'association.
Donc, du coup, tu confirmes ce truc qu'on est un fournisseur d'accès à Internet censé enregistrer l'intégralité
des
adresses IP accédées par son connecté.
Absolument.
D'accord. D'une part, cette masse. Attends, je finis. D'une part, c'est une masse de données colossale, mais bon, ça c'est machin. Mais de la même manière que. Parce que ça c'était encore un point. De la même manière, en tant que fournisseur d'accès de mail, enfin. Bref, on est censé enregistrer l'intégralité des messages vers qui ils vont et de qui ils sont reçus.
Pas la teneur, hein.
Exclusivement l'adresse des destinataires.
Mais ça, ces deux points-là, là, c'est pas considéré comme des données personnelles.
L'adresse, ce sont des données personnelles, bien sûr que si. Elles doivent être protégées et conservées comme étant des données personnelles, tout à fait. Elles sont hautement personnelles. Elles sont hautes et ce sont parmi les données les plus sensibles, les plus dangereuses. Ah oui, dernière chose, le CISOP, je vous rappelle aussi, peut même pas connaître. En fait, ces données doivent être conservées sans que tu les saches. L'idéal du magistrat, c'est-à-dire que tu vas enregistrer ça, mais tu n'as même pas vu l'adresse. C'est-à-dire c'est la machine toute seule qui va la conserver. Puis si un jour, un policier va aller la voir, là, lui, il aura le droit de la voir. C'est d'une hypocrisie extraordinaire. Et on a des décisions aussi pour les administrateurs système qui prennent connaissance de courriers dans les boîtes aux lettres, notamment des salariés. Hein. On a des décisions dans les deux sens, même si depuis l'arrêt Nikon, il est admis maintenant que l'administrateur système ne peut pas, en aucun cas, prendre connaissance de la teneur d'une boîte mail. Et en aucun cas. Mais le « en aucun cas » a déjà connu son exception, alors.
Donc, un policier muni d'un mandat. Non, pas d'un mandat.
Il n'existe pas de mandat.
Comment on l'appelle? Non, mais
commission rogatoire.
Une commission rogatoire.
Agissant simplement dans le cadre d'une enquête diligentée par un juge d'instruction pour fait de terrorisme. Ça suffira.
Ok. Et dans ce cas-là, moi, je ne veux pas répondre. Qu'est-ce qui se passe?
Tu veux pas répondre?
Je dis, soit je réponds, je n'ai pas l'information. Par exemple, j'ai pas de log sur mon serveur et je ne veux pas donner. Je n'ai pas l'information ou que je réponds une information qui est fausse.
Alors, déjà, ne réponds pas, j'ai pas l'information. Si tu reconnais être en faute, c'est un délit qui est puni quelque part dans la loi, alors dans la LCEN, par, je sais plus le numéro de l'article qui est puni, mais bon, voilà. Donc tu commets une faute, tu commets un délit qui est passible de peine relativement sévère quand même. Si tu donnes une fausse information, bah, tu prends tes responsabilités, tu fais un faux. Hein.
Alors, dire, c'est voilà. Quoi les
conséquences? Ah bah écoute, ça.
Non mais.
Ça, concrètement, de toute manière, c'est évidemment complicité du délit principal. Hein. À minima.
Oui, Johan.
Juste pour continuer là-dessus, si, en tant que commission d'accès, on veut conserver les adresses IP vers qui la personne se connecte, on conserve deux fois l'information, puisque le site en question affiché qui sortira sur le net doit aussi conserver l'information de qui l'a s'est connecté.
Pas forcément, ça peut être très bien, ça pourrait être le cas, effectivement, il pourrait y avoir redondance, mais le site en question peut très bien n'être pas assujetti au même dispositif légal que toi. Si le site est bulgare, aujourd'hui, il n'y a pas de loi, je crois, qui en Bulgarie oblige à la conservation de données de la personne.
D'accord, donc c'est-à-dire que si je passe par le profil
de prix. Oui, en fait, ça, bien sûr. Non, mais tu peux dire que c'est complètement court, je suis d'accord. Ça,
C'est vraiment des lois qui... Mais c'est... Je rappelle que ces lois datent de 1997 pour leur année de référence. Je rappelle qu'elles ont été établies à partir de travaux techniques qui ont pour base l'année 97. C'est ce par quoi j'ai commencé. Hein. Or, c'est cette loi qui a été promulguée au deuxième semestre de 2004.
Oui. Sur Usenet, il n'y a ni FTP, ni adresse IP, ni tout ça. Et il y a des forums, on voit à longueur de journée, du négationnisme, de l'intégrisme islamique, du nazisme, de l'insulte raciale, mais massivement.
Il y a aussi Freenet, hein, les réseaux qui sont complètement anonymisés aujourd'hui, le peer-to-peer anonymisé et crypté à 100%, qui est devenu un repère de pédophiles absolu. Je veux dire, je crois que Freenet, c'est à peu près 75% de matériau.
Il y a 150 messages sur Usenet, dans FRSOC, avec Bougnoul, Youpin.
Oui, totalement. Ils sont les coupables de ces messages-là peuvent être identifiés. Enfin, en tout cas, en partie. Les adresses IP là-dessus, elles sont même publiques, elles sont divulguées publiquement en même temps que les messages.
Il n'y a pas de répression. Il n'y a pas de répression, il n'y a pas les moyens de répression. Ils sont soit 5, soit 15 à la cellule des policières qui est censée s'occuper de cela pour toute la France. Mais qui sont 5 ou 15.
Oui, un courrier est une correspondance privée. Qu'en est-il d'une liste de discussion à plusieurs ou d'une liste de diffusion? C'est-à-dire un courrier envoyé par...
C'est considéré par extension comme une correspondance privée puisque ça fait partie de la communauté, ce qu'on appelle une communauté d'intérêt. C'est une publicité limitée, si tu veux. Donc, alors, de toute manière, le message reçu dans la boîte personnelle du réceptionniste, ça, c'est sa correspondance privée, peu importe qui a été envoyé. C'est ce qu'on appelle une publication restreinte, sinon à communauté d'intérêt. Par conséquent, ça ne caractérise pas, par exemple, une diffamation. Voilà. Considérer le caractère public de diffamation a disparu.
Il y a
une
question sur le mail, oui.
Revenir là-dessus. Si jamais, du coup, on met en place un wiki qui est protégé par un mot de passe, c'est pas considéré comme... c'est considéré comme une communauté d'intérêt de la même manière?
Ça dépend si le mot de passe... ça dépend... Là, il y a une interprétation concrète. Hein. La communauté d'intérêt est une interprétation qui est faite au cas par cas par les magistrats. Une liste de discussion, ça peut être extrêmement vaste, hein, puisqu'un parti politique est considéré comme une communauté d'intérêt. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. À l'inverse, s'il suffit de dire bonjour pour avoir le mot de passe ou de s'inscrire, etc., et que le sujet est extrêmement polyvalent, je veux dire que c'est pas un truc, ce ne serait pas une communauté d'intérêt. C'est un peu apprécié au coup par coup. Mais a priori, ce que tu dis, oui, c'est probablement oui.
À partir du moment où le message du mailing list, ou même un message personnel, est archivé en ligne et public, ça devient la publication.
Ça dépend de ce que tu appelles archivé en ligne et publié sur le web.
Oui, sur le web, les archives d'une liste de discussion.
Oui.
D'accord, ça devient la publication.
Oui, la publication.
J'ai une question une question un peu assez pratique sur les histoires des Wi-Fi. C'est quelqu'un qui a une liaison à DSL, qui met son routeur, qui branche un routeur Wi-Fi, celui qui lui est fourni ou celui qu'il a acheté au magasin d'à côté, et qui ne met pas de sécurité particulière dessus pour que tous ses voisins puissent utiliser sa liaison à DSL, en dehors des aspects contractuels vis-à-vis de son fournisseur d'accès, etc. C'est si quelqu'un utilise sa bande d'accès pour faire quelque chose d'illicite, et que le fournisseur d'accès va donner le numéro de la DSL, ça va tomber sur celui qui détient l'abonnement, qui va dire « mais j'ai laissé mon wifi ouvert, mais je ne savais pas, monsieur », qu'est-ce qui va lui arriver?
Ben, il est coupable. Il est coupable direct, hein, comme auteur, même pas comme complice. C'est assez gênant. Moi, ça mérite un peu, ça mérite beaucoup, je veux dire.
C'est ce que vous disiez, enfin, entre la vous allez un peu avoir des problèmes dans la déclaration, dans la discussion, mais c'est entre la réalité, entre le texte de loi lui-même et son interprétation.
Est-ce que le magistrat,
c'est une personne physique qui ne sait pas ce qu'elle fait.
Il y a une chance sur deux. Réellement, Valentin, je vais vous dire qu'il y a une chance sur deux. Je vois des magistrats qui vont vous répondre bon, c'est un brave type, il n'est pas coupable, il n'avait pas d'intention coupable, et d'autres qui vont dire attendez, c'est une responsabilité même sans faute. On est vraiment face Je ne voudrais pas être à la place des magistrats, d'une certaine manière, parce que franchement, ils vont être amenés à juger là, de réalités qui sont inapplicables au cas de figure que vous venez de décrire.
Pourtant, le fournisseur d'accès de la DSL, lui, n'est pas responsable de ce qui va, de ce qui va passer sur son réseau.
Mmh. Et là, la personne, elle en sera responsable, bien sûr, si elle n'a pas conservé les données. Si elle a conservé toutes les données de connexion, si elle a bien demandé à toutes les personnes qui passent de les identifier, évidemment, là, elle ne sera pas responsable. Mais il ne le fera jamais. En parlant, il ne peut pas le faire. D'où une certaine hypocrisie du texte de loi. Mais ce n'est même pas tellement une hypocrisie, c'est le fait qu'encore une fois, ce n'était pas prévu technologiquement lorsque la loi a été faite.
Jérémy.
Moi, c'est par rapport à une question sur les points du forum non modéré, donc, et en l'occurrence, surtout les forums modérés. Mmh. Sur un forum où c'est pas forcément une modération en sens on va modérer les messages plus parce qu'ils doivent être classifiés pour avoir plus de visibilité. Et dans ce cas-là, s'il y a des contenus illicites, on intervient, mais c'est pas notre rôle non plus, s'il y a des contenus à faire racistes, quelque chose comme ça. Donc dans le cas d'un forum modéré, s'il y a un sujet litigieux.
Si le forum est modéré a priori, il est considéré comme modéré a priori ou modérateur.
Hein?
Alors, vous devez bien le déclarer. Déclarez bien que le forum est bien modéré a posteriori. Ça doit apparaître très clairement dans les conditions générales d'utilisation du forum. Hein? Voilà. C'est l'autre problème que l'on a avec la réponse. Le problème va se poser surtout avec les blogs. Parce qu'avec les réponses de commentaires de blogs. Il arrive très fréquemment qu'il y ait une c'est déjà arrivé. Que la personne ait répondu, il y a une réponse injurieuse. Le titulaire de blog ne l'a pas vu. Il n'avait rien à foutre de cette discussion. Il a posté un blog suivant. Il a posté une entrée suivante. Il est bon. Cette fois-ci, il est coupable. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a la preuve qu'il est réintervenu sur le site une fois après. Donc, sur les blogs, il va y avoir pas mal de difficultés parce qu'il y a beaucoup de blogs qui prêtent des réponses de commentaires parfois un peu polémiques. Et alors là, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la micro-délinquance, hein, la diffamation ou l'injure à la petite semaine. Regardez les intranets des lycées déjà, hein, de toute manière, c'est...
Tout à l'heure, on a parlé des accès IP. Moi, je me demandais pour les proxys, en fait, comment on en passe un proxy et... Est-ce que c'est un fournisseur d'accès? Parce que j'ai aucun moyen de
non,
vérifier.
Ce n'est pas, non, alors le proxy, le prestataire hein, de l'activité proxy, lui, il est clairement visé dans la loi, ça s'appelle un stocker intermédiaire. Il n'a aucune responsabilité de rien de quoi que ce soit. Il est simplement là pour faciliter technologiquement ce qui se passe. Lui-même doit conserver des logs personnels, hein, bien sûr, comme tout prestataire. J'ai pris l'exemple de FAI, mais effectivement, tout prestataire doit conserver ses propres logs, mais il n'a absolument aucune responsabilité. Sauf si un jour il a un flic qui débarque et qui lui demande effectivement de fournir ses logs. Mais le proxy, c'est un accélérateur de service. C'est pratiquement celui qui a le moins de responsabilités dans l'histoire. La hiérarchie.
Jérémy,
moi, c'est plutôt en termes de ruse. À partir du moment donné, on peut préciser qu'on fait une modération a posteriori. Est-ce qu'il est donc grosso modo qu'on peut pas être responsable. On s'engage à regarder a posteriori, mais on ne peut pas être responsable donc du coup de ce qui s'est fait avant. Est-ce qu'il est possible, en termes de ruse, de dire je m'engage à faire une modération a posteriori tous les ans. Ce qui me permettrait.
Non, c'est à partir du moment où on a une trace de votre intervention dans le forum, concrètement, à moins que vous trafiquiez toutes vos entrées, c'est la réalité technique qui va. Alors vous allez intervenir.
En disant voilà, je mets cet espace, a fortiori je le modère pour pas qu'il se passe n'importe quoi. Mais...
Vous ne pouvez pas. Les logs de l'hébergeur, enfin les logs des uploads seront. Il y aura les logs des uploads qui seront effectués. C'est peu probable cela. C'est peu probable, mais c'est pas une bonne idée, à mon avis.
Juste pour qui génère 1500 messages par jour, par exemple. Techniquement, on ne peut pas tous les lire. Ce n'est pas temporellement impossible de tout lire 1500 messages par jour, en l'occurrence où on dort, on mange et on bosse.
Tu pourras plaider. Quand tu seras mis en cause, tu pourras plaider.
Vous me l'ôtez.
C'est exactement la réponse que je ferai, mais tu plaideras ça.
Moi j'ai.
Qu'est-ce que
c'est très très embêtant, hein, c'est vrai.
Il y a eu, le mois dernier, en Allemagne, 6 serveurs qui ont été saisis. Est-ce qu'il y a connaissance, d'une part, de saisie de serveurs sur le sol français?
Oui, c'est arrivé une fois, je ne sais plus où d'ailleurs. C'est arrivé deux fois déjà, notamment donc, une fois sur une affaire peer-to-peer. Et ça arrivera encore, oui, c'est-à-dire, même si les flics n'aiment pas tellement faire ça.
Okay. Le serveur est saisi, les données qui sont dessus sont cryptées. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis tenu, en tant que personne qui était propriétaire du bien, de leur fournir un moyen d'accès aux données qui sont dessus ou...
C'est un cas très précis. Si l'ensemble des données sont cryptées, fournir la clé de cryptage, normalement, moi je dirais que les flics vont considérer que. Vont prendre le problème dans un autre sens. Ils vont considérer que l'obstruction que vous faites à ne pas fournir la clé de cryptage est un indice qu'on pourra retenir jusqu'à la complicité.
Il faut que tu m'abandonnes.
Refuser de fournir des éléments qui permettent de décrypter double la peine.
Oui.
En fait, dans ces cas-là, tu as deux solutions. C'est soit tu dis j'ai perdu la clé, mais tu as vraiment intérêt à ce que ce soit bien crypté pour qu'ils n'arrivent pas à décrypter et trouver la faute. Mais par contre, si ils arrivent à passer à trouver la faute alors que tu as perdu la clé, entre guillemets, la peine est double.
Oui, je ne suis pas sûr que la circonstance aggravante de la cryptographie soit tout à fait, comment dire, d'abord tout à fait normale au niveau européen, et d'autre part, comment dire, véritablement appréciée par les tribunaux au niveau de cette interprétation-là. Oui, voilà. Je pense qu'en réalité, c'est rentré dans un rapport de force avec les flics, ça, dans un cas pareil. Donc, là, ce que vous dites sur le fait que vous avez intérêt à ce que ce soit bien crypté, ça, oui.
J'ai trois questions. Première question, en juillet, les blogs ne sont plus tenus de se déclarer à la CNIL.
Bien sûr.
Voilà, donc je voulais savoir qu'est-ce qui change dans les déclarations auprès de la CNIL. Deuxième question, je les pose en vrac.
Il n'y avait pas de déclaration à faire de la CNIL.
Il
n'y
avait pas
de déclaration.
Donc c'était du pipeau le fait qu'on disait que tous les sites devaient être déclarés.
Non, c'était le résultat des lois complètement obsolètes qui dataient du président de 78, la loi 78, qui était pour l'époque du Minitel et qui est tombée en désuétude depuis longtemps.
D'accord. Ah, donc, voilà. Ma deuxième question concerne peut-être pas directement ce forum-là, mais. Comme vous êtes là, j'ai entendu parler qu'on allait modifier la loi informatique et liberté. Est-ce que vous savez sur quoi va porter cette modification au projet?
Oui, ça a été déjà fait. Il y a une directive européenne qui est passée. D'une manière générale, bon, vous trouverez toutes les réponses là-dessus sur le site de la CNIL, qui est assez bien fait. Hein. Donc, vous verrez l'ensemble des recommandations qu'il faut. Le site de la CNIL est bien et tient compte de ça.
Et troisième question, tout à l'heure vous avez dit que l'industrie de la propriété intellectuelle était devenue la deuxième industrie aux États-Unis. Ouais. Où est-ce que je peux trouver la référence?
Je crois que c'était, dans mon souvenir, c'est le fact book de la CIA. Je veux dire, mais de toute manière, vous trouverez ça partout. Je veux dire, un chiffre d'affaires, c'est quelque chose d'universellement connu. Je me demande même si ce n'est pas devenu la première. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que je me souviens d'avoir dans l'étude vu le CIF Act Book pour montrer la croissance de celle-ci de 1980 à l'an 2000. Par rapport au pouvoir d'achat moyen aux États-Unis, je vous le recommande. C'est les chiffres du ministère du Commerce et de la CIA eux-mêmes qui sont assez intéressants.
Excusez-moi, il s'agit bien de l'industrie juridique, il ne s'agit pas des industries comme Microsoft, etc.
C'est de l'ensemble de l'industrie de l'entertainment, c'est-à-dire de tout ce qui est de tout ce qui est fondé sur la propriété, le copyright, la propriété littéraire, artistique, comme dirait en France, donc Hollywood, au sens très large, les majors. l'industrie du disque et ainsi de suite. C'est d'ailleurs, regardez, je veux dire, ils ont bénéficié de 80 à 2000, je veux dire, de la vidéocassette, du CD, du DVD. Trois rotations complètes de catalogue. Rien qu'avec cela, je veux dire, il n'y a pas besoin. Mécaniquement, déjà, ça. Voilà.
Une question concernant, je reviens un petit peu, une question en arrière sur la cryptographie. Est-ce que la loi n'oblige pas à donner les clés de la cryptographie avant l'usage de cette clé?
Ça dire,
une obligation de déclaration pour
compléter la cryptographie. La cryptographie est libre, mais seulement t'as intérêt à quand tu t'en sers.
Il a été question à une époque qu'une agence gouvernementale.
Oui, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Toutes les questions sur la signature électronique aussi. On a l'article 1315 superbe du Code civil sur la signature électronique et aucun relais concret pour le citoyen pour la mettre en place. C'est un des cas les plus intéressants où le droit a de très très loin précédé la réalité technologique.
Et toujours sur la cryptographie. Dans le cas où la clé n'est pas possédée par une personne, mais par un collège de personnes qui chacun possède un bout de la clé.
Oui.
Qui est responsable si on n'est pas capable?
L'ensemble, c'est une responsabilité collective. C'est encore plus grave parce que là, excusez-moi, si je mettais en position de fuite, ce qui peut m'arriver, c'est exactement le cas. C'est une circonstance aggravante. Et ça veut dire vraiment, alors là, une intention de dissimuler.
Ça peut être dans l'idée que limiter, enfin, quand on dit une personne, peut-être deux ou trois personnes, quatre personnes, limiter, dans l'idée qu'une personne seule ne puisse pas, sur sa propre chef, avoir les clés du coffre. Et qu'il faut que les personnes soient réunies pour pouvoir accéder aux données.
Pourquoi diable?
Pour respecter la loi des données personnelles.
Pour respecter la loi qui dit que l'administrateur du système ne doit pas avoir accès aux logs.
Vous êtes charmant.
Merci.
Je parle surtout pas de choses qui ont été vécues.
Je peux quand même me permettre une remarque par rapport à la conclusion de tout à l'heure. Moi, ça me fait flipper hein, parce que. Je veux dire, le truc du plus il y a augmenter la masse de données, ça augmente pas la masse des connaissances. Juste là, c'est les données qui sont toutes informatisées, déjà informatisées. Les ordinateurs ont été inventés pour traiter une masse monstrueuse de données. Moi, c'est le truc, c'est que là, qui veulent absolument avoir l'intégralité des IP sur ces destinations, de quelle que soit la communication, ce que bon, en l'état pour l'instant personne fait. Pareil pour les mails, ça veut dire que. Ils attrapent notre serveur, ils attrapent le fichier et ils cliquent sur un bouton, pouf, ils ont une carte. Et là, ils peuvent prendre 80 personnes d'un coup.
On l'a déjà avec les téléphonies, avec les cartes bancaires, vous savez, de toute façon. Le degré de porosité entre le groupement carte bancaire et l'État est tel que s'ils veulent avoir une carte de ce qu'on fait, ils l'auront. Et sur la téléphonie, c'est sur les remarques les plus inquiétantes, je serais beaucoup plus inquiet sur la téléphonie et la géolocalisation. Ça, c'est du vrai brainwashing en temps réel. Et ça, effectivement, avec l'alibi de l'enfant qu'on enlève et qu'il faut pouvoir suivre, etc. Bon, ça, c'est beaucoup plus inquiétant, c'est du temps réel, ça. Et puis, c'est vous, c'est votre corps.
J'ai pas de téléphone.
Vous avez
ni téléphone mental, ni carte bancaire.
Bon, ben voilà. Donc, vous êtes hautement suspect.
Bien, on va vous remercier encore une fois de vous.